Il va y avoir plusieurs versets que nous allons citer ce matin, parce que je veux vraiment que cette parole authentique, c'est elle qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi qui parle. Alors, je ne suis pas ici pour faire un exégèse puis développer un thème en profondeur, avec des pensées humaines. Je veux tout simplement que vous arriviez à des conclusions qui sont à partir de ce que Dieu dit. Donc, merci d'être patient, parce qu'on va tourner souvent à la parole de Dieu pour lire des versets sur le sujet. Mais on commence avec ces trois versets ici. C'est dans l'épître de Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 13. En effet, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est la raison du repos du Seigneur, de nous rappeler de cette grâce de Dieu qui s'est manifestée. Ce n'est pas juste une théorie. Dieu l'a manifesté en envoyant son Fils. Et puis c'était pourvu pour tous les hommes. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes seront sauvés? Non. Parce que Dieu donne aussi à l'homme un libre arbitre de soit répondre oui ou soit de refuser ce don de Dieu. Verset 12 nous continue, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Donc, pour ceux qui répondent oui, on est appelé quand même à vivre d'une certaine façon. C'est ça la repentance, hein? C'est de ne pas vivre dans notre péché, mais de marcher selon la sagesse de Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, c'est qu'est-ce que Tite nous donne? Que Dieu a manifesté ce si grand salut pour nous, et nous, en nous repentant et en répondant oui, on est appelé à vivre selon la volonté de Dieu. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à cette bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu. On va le voir avec nos propres yeux. Il y en a qui vont dire, ben, je suis un peu sceptique parce que ça fait déjà 2000 ans qu'on croit ça. Ça fait déjà 2000 ans que les chrétiens, que l'Église dit, ben, le Seigneur revient. C'est une vérité pas que, qui a été découverte au 20e siècle, 21e siècle. C'était là dans le 1er siècle. Ceux de l'Église, lorsque les Épîtres ont été écrits, le savaient cette vérité. Et ils s'attendaient que le Seigneur revienne, et possiblement même dans leur propre temps. Ce fut un thème de l'Église depuis le tout début. Donc, vous allez dire, mais pourquoi penses-tu qu'aujourd'hui, c'est un peu plus vrai peut-être que dans le premier siècle? Ça a toujours été vrai. Le salut revient. Mais de penser qu'il va peut-être revenir dans notre génération, peut-être possiblement même aujourd'hui, pourquoi avons-nous une certaine confiance que peut-être dans le passé qu'on n'avait pas. En même temps, je veux aussi vous laisser savoir que je ne dis pas de façon catégorique que Dieu ne peut pas encore patienter et remettre pour un temps futur sa venue. Il se peut que plusieurs d'entre nous, où nous allons tous peut-être passer par le tombeau, peut-être son retour, c'est peut-être pour un petit peu plus tard. Et pourquoi pensons-nous que nous sommes plus près que toujours de sa vue? qu'il y en a qui disent que c'est dangereux d'essayer d'établir le temps du retour du Seigneur. Puis je ne suis pas ici pour vous nommer une date, un mois, une année, même une génération, mais que peut-être on devrait être un peu plus vigilant à regarder pour le retour du Seigneur que peut-être nos frères et sœurs qui sont venus avant nous, qui sont déjà passés au ciel, qui, eux, dans leur temps, pensaient que le Seigneur revenait bientôt. Pourquoi, comme Église locale, vos anciens, on est porté à vous apporter des enseignements et des rappels sur la bienheureuse attente, comme si ça pourrait être aujourd'hui même? Mais c'est parce que notre génération, plus que d'autres générations, on voit un accomplissement accéléré des prophéties qui nous seront données dans la Bible. Et donc, nous allons tourner à plusieurs de ces prophéties, puis on va voir combien les prophéties qui nous sont données dans la parole de Dieu s'alignent vraiment avec la société dans laquelle que nous vivons. Je ne sais pas si vous le saviez qu'il y a une horloge, en théorie, là, il y a une horloge qu'on appelle la Doomsday Clock. Puis ça n'a rien à faire avec le retour du Seigneur, parce que ceux qui l'ont ont eu l'idée, là, qui ont créé cette chose-là, c'est par rapport au danger d'une guerre nucléaire. Et s'il y aurait une guerre nucléaire, ben, ils diraient que ben, ça serait la fin, ça serait Doomsday. Et puis, ils vont nous dire qu'on est à comme à 2 minutes avant minuit, à la situation qu'on vit présent dans notre société, avec la façon qu'on est armé, avec les instabilités politiques qu'on voit aujourd'hui. Mais on pourrait dire, sur le côté prophétique, biblique, on pourrait peut-être dire, nous aussi, on pourrait dire sur l'horloge, pour la venue du Seigneur, si le Seigneur revient à minuit, on est dans les dernières minutes avant minuit. Parce qu'aujourd'hui, on voit des signes prophétiques qui s'accomplissent, puis qui sont si évidents aujourd'hui que peut-être qu'ils étaient un peu moins évidents, même il y a une génération passée. Puis finalement, si c'est vrai, si après qu'on a regardé ces versets-là, vous êtes convaincus que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt, mais ça devrait changer quelque chose en nous. Pensons pour un moment, on se prépare pour un voyage. C'est sûr, des mois avant que le voyage est prévu, on prend ça un peu à la légère. Peut-être on va commencer à faire des listes. Peut-être on va peut-être même monter au grenier, ramasser les valises. Peut-être on va faire des achats pour acheter du linge ou des vêtements plus appropriés pour le climat dans le pays, peut-être, que nous allons aller visiter. Mais c'est sûr, le jour du départ, ça va changer. Le rythme de préparation va changer. On va vérifier. J'ai mon passeport, j'ai mon portefeuille, j'ai mes lunettes, j'ai mes pilules, j'ai ma montre. J'ai tout fait. Les dernières préparations, on dirait que ça nous motive à vraiment être occupés pour faire sûr que tout va se dérouler comme il faut. Mais c'est un peu la même chose. Si on croit vraiment que le Seigneur revient bientôt et possiblement même aujourd'hui, ça devrait changer quelque chose en nous comme Église. L'anticipation, si c'est lointain, semble qu'on est moins motivé, mais si on savait, je pense que c'est la raison peut-être que le Seigneur ne nous a pas donné une date précise, parce qu'il aurait pu le faire. Le prophète Daniel nous a donné le calendrier des différents empires, on a vu ça dans des messages dernièrement, jusqu'à l'année entre le temps de Daniel et la crucifixion de Jésus-Christ. on pouvait savoir exactement quand c'était pour se passer avec les 70 semaines de Daniel dans sa prophétie. Ézéchiel enchaîne aussi. Donc, on avait vraiment devant nous une carte qu'on pouvait... C'est que, on le lisait à mesure que ça arrivait. Et si le Seigneur ne nous a pas donné un calendrier pour son retour, c'est parce qu'il sait que le cœur humain est de sorte que si on pense que c'est pour un temps futur, on dort. Si on pense que c'est pour aujourd'hui, on ne dort pas. Alors l'objectif ce matin, si j'aurais un objectif, c'est de montrer à la lumière de cette parole, la Bible, pourquoi nous croyons que nous approchons de l'enlèvement de l'Église et comment nous devrions nous préparer comme Église. Donc on a regardé vers le ciel. Donc voici la longue liste de versets qui vont parler pour eux-mêmes. Les promesses du retour du Seigneur. Il n'y en a pas juste un. La Bible nous en donne plusieurs versets prophétiques pour nous dire que le Seigneur revient. On ne les lira pas tous, là, mais on en prendra quelques-uns des plus importants. Premièrement, écoute, Jésus lui-même nous le dit. Jésus lui-même lui dit, je reviens. En Jean, chapitre 14, au verset 3, on lit, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » C'est Jésus qui le dit. Jésus n'est pas menteur. Jésus nous le dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens et je vous prendrai avec moi. Les apôtres ont confirmé, les apôtres ayant reçu du Saint-Esprit à écrire les épîtres, à écrire les évangiles, à écrire le livre prophétique de l'Apocalypse, ils ont reçu de Dieu cet enseignement du retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens, un verset qu'on connaît assez bien sur le sujet au chapitre 4, les versets 16 et 17. C'est la Bible qui parle, c'est Dieu qui parle, et il nous dit le Seigneur lui-même. Il n'enverra pas un ambassadeur, il n'enverra pas un ange. Il vient lui-même à un signal donné. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Le Seigneur lui-même. Donc, son enlèvement pour l'Église, elle est visible. L'enlèvement. Cet enlèvement est une grâce que Dieu fait à son Église pour nous faire rentrer dans notre patrie, de rentrer au ciel avec le Seigneur, pour ne pas avoir besoin de passer cette grande et terrible tribulation. L'Église est épargnée. Nous partons avant la tribulation. C'est la conviction de notre assemblée. Et que nous allons retourner avec Christ à sa deuxième venue qui sera visible au monde entier. Quand je dis que son premier retour à l'enlèvement, là, ça soit visible, c'est que le Christ lui-même ne sera pas visible à tous. Mais les effets de voir des milliers et des milliers et des milliards de personnes partir, d'être pu ici. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Le Seigneur nous donne plusieurs signes prophétiques du temps présent, le temps dans lequel le Seigneur reviendra. Puis si on dit le temps présent, c'est parce que ça ressemble beaucoup à ça, aujourd'hui même. Jésus avait reproché aux pharisiens de savoir lire le ciel, mais non les signes des temps. Matthieu chapitre 16, 3. Nous, comme chrétiens, on ne doit pas faire la même erreur. Nous devons discerner les signes que Dieu nous a donnés, et les voici. La première, la restauration d'Israël. Lorsqu'on fait la lecture panoramique de toute la Bible, la première grande moitié et plus, c'est l'histoire d'Israël. Un peuple choisi de Dieu par des promesses qu'il a faites à Abraham. Et de lui naît cette nation. Et c'est une nation qui est soit étroitement liée au Seigneur pour un temps, mais souvent laisse leur premier amour, abandonne le Seigneur. Et Dieu les avait donné prophétiquement soit des bénédictions ou soit des malédictions selon le cœur de son peuple. Si vous obéissez, il fait la liste, il dresse une liste de sa fidélité et de l'abondance que Israël connaîtra comme peuple. Et si vous désobéissez, il dit, on va vous amener en exil, vous allez sortir de votre pays. Avec Néhémie et ils sont revenus pour un temps, mais éventuellement, ils ont encore été dispersés. Après la crucifixion du Seigneur Jésus, Israël est conquis par les Romains. Israël n'appartient plus dans son pays, ils sont dispersés partout dans le monde. Mais il y a une promesse que Dieu nous donne, qu'ils vont rentrer chez eux, Ézéchiel chapitre 37, versets 21-22. Puis c'est en 1948, après cette dispersion, que l'Israël est rentré chez eux dans une nation, après la guerre. Surtout là, en conséquence de ce qui avait été fait aux Juifs, dans le Holocauste, les gouvernements mondiaux, reconnaissant qu'Israël n'avait pas de patrie, n'avait plus son terrain, n'avait plus son pays, leur donne un territoire, leur donne leur nation. Et Israël est devenu un peuple avec une nation sur une terre qui leur appartient. Matthieu 24, 34 nous dit que par rapport à Israël, cette génération qui rentre chez elle, qui sera bénie par le prophète Ézéchiel, ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur donne une liste des choses qui vont arriver et il dit que ça se passe dans cette génération-là. Bon, est-ce qu'on définit une génération juste par ceux qui sont nés et qui sont morts, puis quand ils sont tous morts, bien, la génération est finie? Non, je pense que c'est plutôt une époque. C'est dans le temps qu'Israël sont rentrés chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de ceux de cette génération-là qui ne vont pas mourir. Mais il y a des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui sont de ceux qui ont rentré dans cette génération, qui sont rentrés en Israël. Mais on ne se limite pas nécessairement à la définition d'une génération comme étant la naissance et la mort de tous ceux qui sont dans une certaine génération. Mais c'est déjà la chose qui déclenche, on pourrait dire, l'horloge de la fin des temps. C'était la dernière prophétie qui devrait être accomplie. Et maintenant, il n'y a rien qui arrête le Seigneur de revenir. Il n'y a pas d'autre promesse, il n'y a pas d'autres prophéties qui doivent venir avant. Le prophète Daniel, dans le 12e chapitre, au verset 4, va nous dire ceci. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. C'est comme il va y avoir une explosion de connaissances. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que dans la génération présente, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, écoute, on a vécu dans une époque où ce que on a passé du cheval au char, on a, même dans les bandes dessinées, on imaginait sur les Jetsons qu'un jour il y aurait des téléphones avec des personnes de l'autre bord qu'on pourrait voir, puis on les parlerait sur un écran. On l'a déjà, là. On peut faire ça déjà. L'imagination et la connaissance de l'homme, elle a comme été exponentielle. On a mis les astronautes sur la Lune, ils ont marché sur la Lune, ils se sont promenés, il y a des chars qui se promènent sur Mars, qui prennent des photos, qui prennent des échantillons. C'est fou qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui que qu'est-ce qu'on ne connaissait pas même 100 ans passés. Si je pourrais aller chercher mon grand-père là, qui est décédé en 1976, puis lui amener ici, puis il disait, écoute, regarde autour de toi, là, qu'est-ce qui a changé depuis 1976? Un téléphone mobile. Plus de fil. On se promène avec les téléphones dans nos autos, puis on parle. Internet, ça continue, ça y est. Dans tous les domaines médicaux. Tu sais, il y avait une raison pourquoi que les gens mouraient dans la soixantaine. Parce qu'on ne faisait pas des pontages comme j'ai eu au mois de mars. Hein, toute la technologie, la médecine, dans tous les domaines, la connaissance, ça a explosé. Je ne peux pas trouver un meilleur mot que ça. Il y a eu une augmentation de connaissances. Et aussi par rapport au mouvement des peuples. On ne se promène plus en cheval. On saute sur un avion. On est parti, on arrive dans un pays lointain en plus d'heure. Ça, c'est dans notre génération. Sur le côté négatif, par exemple, la parole de Dieu nous rappelle en 1 Timothée 14, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Moi, je pense que les quelques heures, là, c'est rendu que plus que quelques heures. L'apostasie, là, c'est quand la société en général prend une position que Dieu n'existe pas. Il y avait un article dans les années 60 sur Time Magazine où que sur la couverture, God is dead. Dieu est mort. C'est comme Dieu ne parlait plus. Puis pour la société qui vit dans cette génération, c'est comme si Dieu est mort parce qu'on n'y croit pas. Il n'y a pas de Dieu. Combien sont nombreux les personnes autour de nous qui sont contents que nous, on a un Dieu, puis bon. Faites votre église, faites votre culte, mais ne dérangez-moi pas avec ça. Moi, je vais faire ce que moi je veux. On vit dans une apostasie où ce que la majorité ne croit pas dans le Dieu, le seul et unique Dieu. Et même pour ceux qui sont des personnes de foi, soyons honnêtes, même la foi est diluée. combien on parle souvent de la lutte chrétienne, puis de combien c'est une lutte acharnée, puis des fois on peut voir des gens qui se découragent, ou que pour eux, la religion, c'est un culte de faire des choses pour faire comme le nécessaire, mais sans voir que Dieu met le trou de nos affaires. Il y a plein. On parlait souvent des chrétiens du Père Noël et Pâques. Hein, ils vont à l'église deux fois par année. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est de la religion. Hein. Il y avait des règlements, il fallait faire tes obligations deux fois par année. Mais une relation à tous les jours, il y a une relation qui est importante dans tous les aspects et domaines de la vie, ça existe très peu. Aujourd'hui aussi, on voit beaucoup de religions sans nécessité de repentance. C'est pourquoi le sujet du péché est tellement difficile à aborder avec une personne en leur présentant la personne du Seigneur Jésus. On est confortable quand on parle de Dieu, puis des fois, ils veulent parler de Dieu d'une façon un peu théorique, sans être trop spécifique, parce qu'ils croient vraiment qu'il y a plein de chemins. Mes collègues disaient que Dieu, c'était une énergie. Puis si tu mettais quelque chose dans l'univers, là, une pensée, bien, ça va te revenir. La tolérance pour toute religion comme étant une bonne chose. Puis je ne dis pas qu'il faut manquer de respect pour ceux qui ont des religions différentes des nôtres. Mais de dire qu'il y a plein de chemins pour aller au ciel, ben c'est faux. Jésus dit lui-même, lui qui est Dieu, je suis la vérité, le chemin. Il y en a juste un. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y a plein de chemins pour arriver à lui. Mais la société dans laquelle on vit n'a vraiment pas de place pour le Dieu, le vrai et unique Dieu. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre où on va souvent pour lire un peu sur les prophéties des choses à venir, parce qu'il y a beaucoup de ces prophéties-là qui sont pour un temps futur. Mais c'est un temps après l'enlèvement, surtout, que l'histoire se raconte. Juste les trois, quatre premiers chapitres là, touchent le passé, puis le reste, ça touche un futur à venir. Un futur dans les lieux célestes. C'est comme Jean voit les choses qui se passent au ciel. Puis une des choses qui nous a été données, c'est que le monde se prépare aujourd'hui pour un gouvernement mondial, un seul gouvernement. Vous allez dire, bien, OK, bien, ça, c'est une prophétie qui n'est pas sur le bord d'arriver aujourd'hui, là, parce qu'on voit tous les pays qui essaient de, tu sais, se lever sur leur propre autorité, leur indépendance. Nous, on est Canadiens, puis d'autres vont dire, mais nous, on est Américains, puis d'autres vont dire, mais nous, on est, tu sais, Mexicains, Colombiens. Toutes les nations, chaque pays veut rester indépendant, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bon. Mais au-dessous, la politique, à la prochaine étape, sur le plan économique, c'est tellement tricoté ensemble. Justement, cette semaine, Trump a laissé tomber certains tarifs. Pourquoi? Parce que les gens, les États-Unis étaient tannés de payer trop cher pour le café, puis pour le bœuf, et pour d'autres choses. Tu vois, leur politique voudrait être comme eux, ils décident, mais finalement, ils savent, la réalité, c'est qu'on dépend des autres. Donc, sur le plan économique, financier, mondial, c'est tout comme déjà ensemble, c'est déjà mondial. Les marchés, on dit, sont globaux. Sur le plan politique, c'est vraiment la seule place où il y a vraiment une indépendance qui est indépendante. Mais si 1 milliard de personnes partent à l'enlèvement, ça va brasser. Là, les gens, là, ils n'auront plus confiance dans leur gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement qui va être capable de corriger, expliquer et répondre à l'enlèvement de l'Église. Ils vont trouver toutes sortes de théories, c'est sûr. Ils vont inventer toutes sortes de manières pour expliquer. Mais ça ne sera pas satisfaisant. Et puis, il va y en avoir un qui va se lever. En Apocalypse 13, 7, et il fut donné à la bête autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est une prophétie future qui nous dit qu'il va y avoir un gouvernement mondial à un moment donné, uni. Qu'est-ce que ça va l'air exactement? Je ne peux pas vous le dire. Mais il va avoir vraiment cette volonté. Puis ils vont dire sur le côté positif dans leur idée, ça va être bien, c'est bien, on va être tous unis. On va être un, finalement. Fini les petites chicanes. On va en avoir plein de chicanes pareil. Mais... Et la fondation est déjà là, dans notre génération. Pensez juste à l'Internet, qu'est-ce que ça a fait par rapport à l'unité globale, puis la connaissance de personne à personne, les liens d'amitié que tu peux faire partout dans le monde qu'on ne pouvait pas faire avant. On a des influences déjà les uns sur les autres, des fois positives, des fois négatives. Et ça va venir. Ça n'a jamais été aussi près. Il y a un temps où chaque pays pouvait vivre vraiment en isolation les uns des autres, parce que nos économies étaient beaucoup plus petites, la population était plus petite, on pouvait être autosuffisant, mais ça n'existe plus, l'autosuffisance. Matthieu 24 nous donne une liste de catastrophes mondiales, on va dire encore une fois, mais ça a toujours existé, des ouragans, toutes sortes d'affaires, des tornades, des fléaux, il y en a toujours eu, que ce soit des virus ou toutes sortes de n'importe quoi qu'on peut passer, là, qui n'est pas le fun, là. Ça a toujours existé, mais ça n'a pas existé comme ça existe aujourd'hui. On va dire qu'il y a toujours eu des tremblements de terre. Bon. Depuis l'invention là, de ce fameux machine là, qui mesure les tremblements de terre, seismomètre, je ne sais pas en français pas du tout, là, mais il y a une machine là, qui peut les lire.
Sismographe.
Bon. OK. Merci de me faire connaître. J'ai déjà oublié. Mais... Depuis qu'on a pu prendre des records, on a l'histoire des séismes mondial. Et les scientifiques qui les observent vont nous dire que la fréquence des séismes est beaucoup plus élevée aujourd'hui que ça n'a jamais été. Il y en a toujours eu, oui, des tremblements de terre, mais il n'y en a jamais eu comme on a aujourd'hui. Avec le changement climatique, même dans notre génération, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Les feux de forêt comme on les a aujourd'hui, comme on n'a jamais eu. Toutes sortes de désastres. La violence. Il y a toujours eu de la violence, mais sans aujourd'hui, c'est tellement plus prononcé. La pornographie. Le péché sexuel. L'infidélité dans les mariages, les familles brisées, il y en a toujours eu, mais pas comme on est aujourd'hui. On l'a constaté dans notre propre génération. Comme professeur de salle de classe qui a commencé sa carrière en 1981, ça ne ressemble plus aux profs là, qui sont dans les salles de classe en 2025. Quand j'ai commencé, là, les enfants avaient un respect pour le prof. Et même les parents avaient un respect pour le prof. Puis des fois, si un enfant il avait besoin d'être corrigé, bien, le parent il était là avec toi pour dire hey, quoi, ben, on va régler ça. Attends qu'il arrive à la maison. Aujourd'hui, les parents rentrent dans la classe pour accuser les profs de ne pas avoir fait leur job ou d'avoir agressé leur enfant ou d'avoir dit des bêtises, etc. Ça ne finit plus, là. Ma fille, elle me parle super. Elle est enseignante, mon garçon aussi. Puis je me dis, hey, je suis content, j'en sais plus. C'est pas qu'un enfant tout seul, à lui, il est méchant, mais il t'emmène bien dans une salle de classe, puis c'est comme les enfants savent que tu n'as plus d'autorité, il n'y a plus de respect pour les autorités. Il n'y a plus de respect dans le foyer des enfants envers leurs parents. C'est une autre prophétie qui nous est donnée. Bon, les signes, il y en a beaucoup, mais on va arrêter là parce que sinon, on ne finira jamais. Les signes spirituels maintenant à l'intérieur de l'Église. La Bible en parle. Premièrement, Matthieu 24, 14 nous dit qu'il va y avoir un réveil missionnaire mondial. C'est une bonne chose. Un réveil missionnaire sur l'échelle du monde. Ça se fait par Internet. Plus besoin d'envoyer des personnes dans des pays étranges, parce que dans tous les pays étranges, ils ont tout l'Internet. Combien de ministères, combien d'accès avons-nous maintenant pour proclamer l'Évangile? Tu peux juste aller sur YouTube et tu peux te joindre à presque n'importe quelle église, n'importe où dans le monde pour faire partie de leur culte. Vous vous rappelez, dans le temps du COVID, on faisait ça même ici. On s'assoyait chacun chez nous puis on faisait notre culte. Ensemble. Pas ma préférence, mais c'est possible. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est vraiment vrai qu'il y a eu un réveil missionnaire mondial. Matthieu 24, 14 nous dit « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dit le verset. Donc, la première partie, c'est Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations en préparation pour quoi? La fin. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. L'évangile aujourd'hui est plus proche du peuple et de leur langue. La Bible est traduite dans combien plus de langues que c'était même il y a 50 ans passés. À chaque année, il y a des nouvelles langues qui s'ajoutent et des peuples qui reçoivent pour une première fois la Bible dans leur propre langue. Dieu accomplira sa parole. L'Évangile atteindra tous les coins du monde. Matthieu 25, 6 nous dit « Voici l'époux allé à sa rencontre. Il va avoir un appel à la vigilance et à la pureté. » Alors, pourquoi cette génération? Mais tous les signes se convergent, plus que dans le passé. Du fait que les signes étaient déjà présents dans des générations antérieures, donnait espoir à l'Église dans ces moments-là de dire « Le Seigneur pourrait revenir ». Mais Israël n'était pas encore chez eux. Donc, c'était pour eux un point d'interrogation. Est-ce que c'était un Israël symbolique? Est-ce que c'est... Tu sais, il y avait plein d'affaires pour essayer d'expliquer ces choses-là. Mais là, on l'a vu, nous qui sommes plus littéraux dans notre interprétation, c'est vraiment arrivé, ils sont chez eux. Mais tous les signes se convergent. L'Église mondiale est complète, presque. On ne sait pas combien il faut être ajouté à l'Église encore. C'est pourquoi on n'arrête pas d'évangéliser. C'est pourquoi on n'arrête pas d'en parler avec nos voisins. Il ne faut pas dire, ben, Seigneur revient à soir, donc on arrête d'évangéliser. On évangélise jusqu'au moment qu'on part. Peut-être encore plus. Le monde est mûr pour le jugement aussi. Si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament combien Dieu était miséricordieux et patient, il prononçait des prophéties, puis il semble que, il prenait son temps pour les faire accomplir. Hein? Pas parce que Dieu n'était pas vrai de sa parole, c'est que Dieu est patient. Puis à un moment donné, on lit dans l'Ancien Testament par rapport à certaines prophéties que c'est venu à son terme. Finalement, là, ça ne pouvait pas être plus pire. Israël avait été averti souvent. Continuez dans votre désobéissance, puis c'est ça qui vous attend. Puis ça n'arrivait pas, puis ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Puis finalement, c'était devenu si grave, c'est poum, là ça arrivait. Il y avait un terme, à un moment donné où ce que Dieu ne tarde plus. Merci, Seigneur, de sa patience. Quand je prie pour ceux dans ma famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je commence ma prière avec « Merci, Seigneur, de ta patience. » Oublie pas un tel, oublie pas un tel. Continue à travailler, à tirer à toi, ceux de mes parents, la parenté, mes collègues de travail, ceux que j'ai connus. Merci de ta patience, mais un jour, sa patience aura un terme et le Seigneur revient. Et le dernier va avoir rentré dans l'Église comme Église. Ça ne dit pas qu'il n'y en aura pas d'autres sauvés. Il va y en avoir d'autres sauvés pendant la tribulation. Mais ça ne sera pas facile. Dans le livre d'Apocalypse, il y a une parole prophétique qui nous donne l'attitude justement de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dit? Viens bientôt. L'Église supplie devant le Père que ton Fils pourrait venir bientôt. Le Seigneur, en nous enseignant comment prier, nous dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. C'est comme il y a un terme, il y a un moment, puis l'Église soupire, l'épouse dit, viens, viens bientôt. Luc 21, 28, redressez-vous, votre délivrance approche. Notre attitude devant cette espérance. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change pour vous? Matthieu 25, 13, nous dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Hein, c'est la raison que ça a été gardé un secret, parce que ça nous donne à veiller. Si on le sait que c'est pour une autre époque, c'est encore pour un autre 50 ans, on ne veillera plus. Être prêt, c'est vivre chaque jour comme si le Seigneur viendrait aujourd'hui. Il est appelé à nous sanctifier. 1 Jean 3, 3 nous dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur en regardant le Seigneur. » Donc, c'est pas juste de dire « Wouhou, on va au ciel! » On va veiller le ciel pour voir le jour du départ. M'en va. I'm out of here. J'ai la responsabilité dans le présent de me purifier, d'être prêt pour y aller. C'est pas que être pur de moi-même qui va m'amener. Mais combien que ça serait beaucoup plus beau qu'on pourrait partir pur, faisant qu'est-ce que le Seigneur prend le plaisir. Et d'être pris au moment qu'on est accablé par le péché, puis on vit selon la chair, ça va être presque gênant de partir. Une chance qui nous transforme et nous donne un corps glorieux. Sinon, on serait peut-être même hésitant de partir. Ah, tu ne peux pas me prendre comme ça, Seigneur, vraiment, là, je ne vis pas comme je devrais vivre. Imaginez un homme qui vit en adultère, puis il entend la trompette, il s'en va, serait bien de partir uni avec l'épouse, son épouse, au lieu d'être dans un cas d'adultère. Il y a combien d'exemples on pourrait trouver, hein? Des fois, on a une certaine délice pour le péché, puis même comme chrétien, là, on n'est pas toujours aussi pur qu'on devrait l'être. Aussi, le service chrétien, ça nous appelle à servir fidèlement. Servir, c'est de s'impliquer, faire valoir le don que le Seigneur nous a donné. C'est d'avoir un cœur pour ceux qui sont perdus. C'est d'avoir un cœur pour ceux qui sont pauvres. C'est d'avoir un cœur pour les veuves, pour les orphelins. Servir fidèlement. En conclusion, voici, je viens bientôt. C'est qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Voici, je viens bientôt. Puis nous, on répond, ben viens. Appel final. Paul l'a mentionné ce matin. Je savais qu'on partage des emblèmes. Moi, je ne peux pas répondre pour quiconque ici par rapport à votre position avec le Seigneur. Plusieurs m'ont partagé un témoignage qui me donne confiance que vous appartenez au Seigneur et que si l'appel, la trompette sonne, vous partez et on part ensemble. Mais il y aurait peut-être des personnes ici qui n'ont pas cette assurance. Si la trompette sonne, le Seigneur revient, est-ce que vous avez l'assurance que vous allez être parmi ceux qui vont partir? Savoir si on part avec lui, avoir cette assurance, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on a confessé de notre propre bouche le Seigneur Jésus et nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 19 nous dit, nous serons sauvés. Et pour chaque personne, ce n'est pas exactement pareil. Je ne peux pas vous donner une formule magique. Je ne peux pas vous dire comment ça va avoir l'air dans votre vie, votre expérience de repentance, de regret de votre péché. Et tout ce que je sais, qu'on ne gagnera personne notre ciel. Il n'y en a pas un de nous qui va gagner notre ciel. Donc, si vous avez dans votre idée que je suis ici ce matin parce que je veux être à l'église, parce que ça va plaire à Dieu, et je vais gagner mon ciel, vous auriez pu rester à la maison. Ça ne gagne rien. Et c'est cruel d'entendre les paroles du Seigneur lorsqu'il dit de ceux qui vont dire, qui vont venir, qui vont dire, nous étions tes disciples, on a fait ci, on a fait ça en ton nom. Et le Seigneur va les regarder, il va dire, je vous ai jamais connu. Partez. Vous n'avez rien à faire avec moi. Moi, j'ai rien à faire avec vous. Quand je dis cruel, ce n'est pas cruel dans la vérité que le Seigneur, lui, en étant parfait, peut le dire. Mais pour nous, la façon qu'on comprend les émotions, ça semble cruel. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Seigneur. J'ai tout fait. Je t'ai aimé. J'ai été à l'église. J'ai prié. J'ai fait ci. J'ai fait ça. J'ai fait plein de choses. Puis Jésus va nous répondre, ben oui, mais je l'ai déjà tout fait pour vous, mais vous n'avez pas eu confiance en qu'est-ce que j'ai fait. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si vous voulez être sûr et avoir confiance que si l'appel du Seigneur et son retour seraient pour aujourd'hui, que vous partez avec ceux de nous qui sommes enfants de Dieu. c'est que vous allez croire et le confesser à Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas arriver moi seul. Je ne vous donne pas des formules magiques, je ne vous donne pas une formule à utiliser mot pour mot. Il faut que ça vienne de votre cœur, il faut que vous ayez un désir de connaître Dieu, puis crier à Dieu, puis dire, écoute, sans toi, là, je ne peux rien. Je suis un pécheur. Et Christ est mort pour moi, et j'ai confiance en lui. C'est lui que j'ai confiance, puis j'accepte qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Prions.